Le commentaire de
Mathieu Boccoté, dépensé pas comme les autres.
Mathieu, aujourd'hui dans ta chronique vers la fin, tu écris « Ceux qui s'inquiètent de la défense des libertés ordinaires devant les excès possibles de l'ordre sanitaire ne servent pas une cause déshonorante ». Est-ce que tu n'es pas en train de nourrir certaines personnes qui sont contre le confinement, contre les mesures sanitaires, qui banalisent la situation, parce que ces gens-là sont en train de dire « Il est des nôtres, il est contre le confinement comme nous autres ».
Ben alors, je distinguerais deux, trois choses là-dedans. J'ai toujours dit, peu importe le texte que j'écris, ma fonction n'est pas de nourrir comme si j'avais devant moi un élevage de gens. Allez, j'essaie d'écrire la chose qui me semble juste dans les circonstances, qui me semble adéquate, sans me demander est-ce que je vais nourrir quelqu'un qui me comprend mal. Parce que si on écrit toujours en fonction de celui qui pourrait mal nous comprendre, pardon, on finira par ne plus rien écrire, ça me semble inévitable. Alors, une fois que c'est dit, non, ce qui me semble important, puis je racontais au début de la chronique, ce qui est à l'origine de ce papier-là, c'est il y a quelques jours, je regardais à la maison une série qui date de 2015 environ, et là, j'avais un malaise devant la série, mais je savais pas c'était quoi. Et là, je voyais des gens qui se touchaient, qui se parlaient, puis là, c'était le soir. Là, je dis, mon Dieu, mais ils rentreront pas à temps pour le couvre-feu. Et là, pendant quelques secondes, moi, je me suis dit, mon cerveau vient de basculer manifestement. Et là, je devenais étranger, mentalement, à ce que fut la vie pendant longtemps, disons ça comme ça. Et je constatais que la crise, la COVID, dont je n'aurais jamais le début d'un quart de huitième d'idée de la relativiser, c'est pas la question de la nier encore moins. Mais je disais, elle nous a frappés à ce point où ce qui nous semblait le plus banal nous semble aujourd'hui extravagant. Et une réflexion qui m'accompagne depuis le début de cette crise, sans jamais, me semble-t-il, faire le procès de nos gouvernements, sans jamais dire il y a derrière ça un complot, tout ça, je dis, il faut toujours garder à l'idée que ce qui se passe n'est pas normal, au sens où la suspension des libertés qui est réelle, qui est probablement nécessaire à bien des égards, mais qui est réelle, on ne doit pas faire semblant que rien ne se passe. On ne doit pas s'habituer à cet état mental qui est quand même une forme de ratatinement intellectuel et existentiel. Donc, je ne dis pas ensuite. Ah, puis ensuite, j'ajouterais que on devrait être en droit de discuter de l'efficacité ou de la légitimité de telle ou telle mesure sans qu'on y voie une remise en question de l'ensemble de l'approche sanitaire appropriée à la crise. Donc, parce qu'un jour, peut-être pas demain, mais un jour, il va falloir se demander dans quelle mesure on peut fonctionner de confinement en confinement jusqu'à quand on peut tenir comme ça, comme société, si la crise s'installe, si d'un variant à l'autre, si la vaccination est moins efficace qu'on l'espère. Est-ce qu'on a comme horizon, si c'est le cas, il faut le dire, d'être dans une possible cycle de confinement à répétition sur un an encore, deux ans, trois ans? Je pense qu'il ne devrait pas être interdit d'aborder ces questions-là raisonnablement sans y voir d'un côté une forme de logique conspirationniste, puis sans non plus, inversement, certains nous disent le gouvernement cherche à nous étouffer. Non, c'est pas ça. C'est juste qu'à un moment donné, au nom d'une exigence sanitaire réelle, on doit rappeler néanmoins que toute la vie n'entre pas seulement dans la catégorie de l'urgence sanitaire, qu'une part de la vie peut et doit être préservée, puis je donne juste un exemple à la fin là-dessus. Pour moi, là, il y a la question du couvre-feu qui on va reparler d'ici quelques jours, là, peut-être à peu près une semaine et quelques. Est-ce qu'il est légitime de dire, bon, mais dans certaines régions, l'épidémie est sous contrôle? Mais est-ce qu'on peut suspendre le couvre-feu dans les régions où l'épidémie est sous contrôle? Ou est-ce qu'on a une conception quelque peu désincarnée de la solidarité nationale? Eh bien, à Côte-Nord, en Gaspésie, on peut faire la liste des régions, eh bien, ils doivent vivre au rythme des quartiers montréalais les plus touchés. Je pense qu'à un moment donné, la suspension des libertés doit être provisoire, elle doit être temporaire, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas nécessaire, mais elle doit toujours s'accompagner d'une certaine remise en question.
Écoute, je suis déçu parce qu'en début de chronique, tu n'as pas dit que ta chronique était diffusée à partir d'un territoire Mohawk non cédé. Faut que tu dises ça, Mathieu.
Non, ça c'est important, ça de dire ça. Alors, je prends le relais de la chronique de notre ami Joseph Pascal, l'exceptionnelle chronique qui est parue hier, si je ne me trompe pas, où il remettait en question, il rappelait une chose premièrement, c'est que tous les historiens sérieux, et il y en a encore, peu importe leur préférence idéologique, reconnaissent que l'idée de Mohawk comme territoire Mohawk, de Montréal, dis-je, comme territoire Mohawk ou autochtone non cédé, ne tient pas. Ça ne fonctionne pas. C'est objectivement faux. Et là, la question que Joseph Facal se demandait, c'est comment expliquer que tant de gens, néanmoins dans nos élites, surtout nos élites politiques, idéologiques, intellectuelles, s'y rallient. Et là, il y a deux choses là-dedans. Il y a ce qu'on pourrait appeler, il y a deux, me semble, en fait, trois volets d'explication. Le premier, c'est, ben, ça suppose que fondamentalement, la présence européenne en Amérique depuis 1492, 1534 ensuite, 1608 pour Québec, est fondamentalement illégitime. Donc, la simple présence européenne en Amérique est illégitime. De ce point de vue, on doit considérer à jamais que ce qu'on appelle, ce qu'on veut nous faire appeler l'île de la Tortue, hein, le nom que certains donnent à l'Amérique, l'île de la Tortue est un territoire non cédé à l'homme blanc venu d'Europe. Bon, alors si c'est le point, si c'est la question, eh bien, il va falloir qu'on nous explique comment on doit fonctionner avec la machine à rembobiner l'histoire. Est-ce que la Gaule est un territoire non cédé aux Romains? Ce serait intéressant de le savoir. Est-ce que la Kabylie est un territoire non cédé aux Arabes? C'est une question qu'on pourrait poser aussi. On peut remonter ça à loin quand même.
Ben oui.
Deuxième élément qui me semble important, c'est la puissance de l'intimidation idéologique. C'est-à-dire, on comprend aujourd'hui que beaucoup de gens voient très bien que certaines de ces thèses-là sont fondamentalement fausses, mais le prix à payer pour s'y opposer est tel, les injures à répétition, colonialistes, ou il y en a d'autres. Par exemple, si j'affirme les hommes n'ont pas de menstruation, les femmes en ont, pour quelques-uns, je tiens un propos haineux en ce moment. Je viens de tenir un propos haineux. C'est quand même, si je dis les hommes et les femmes ne sont pas interchangeables, l'homme n'est pas une femme, la femme n'est pas un homme, et l'identité sexuelle n'est pas purement un choix, elle s'ancre aussi dans la nature. Si je dis ça, là, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des situations d'exception, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'ouvrir aux situations d'exception. Quand je dis ça, ce sont des propos haineux pour certains. Et donc, la peur de se faire traiter de propos haineux, eh bien, en amène plusieurs à décider de raser les murs. Et troisième élément qui me semble important, je pense que c'est aussi un effondrement de la culture générale. C'est-à-dire, quand la culture générale s'effondre, quand la culture historique s'effondre, il y a toutes les manipulations idéologiques qui sont possibles. Et je pense que c'est ce qu'on voit sur la question de Montréal, territoire autochtone ou Mohawk non cédé. Ça repose sur une forme de, c'est une toute puissance de l'idéologie devant l'absence de culture historique minimale pour y répondre.
Et surtout, les gens répètent ça, ça n'a aucun fondement historique. Il y a plein d'historiens qui disent aucun fondement historique à ça. Les Mohawks étaient en Albany, dans le nord de New York, étaient pas ici. Mais les gens répètent ça. Écoute, moi, je suis allé dans des festivals de films, mais avant l'ouverture du festival, on disait « nous rappelons que blablabla bla, ». Bla, la mairesse répète ça. Donc, les gens répètent ça de façon automatique, sans
oui,
savoir ce qu'ils disent.
C'est le propre de slogan. C'est le propre des slogans du régime. Le régime nous bombarde de slogans à la manière d'une vérité officielle qu'il faut inscrire dans les consciences. Et là, qui va s'opposer à ça va passer donc pour une forme d'ennemi des Autochtones, alors que c'est pas la question. C'est pas la question. La question n'est pas de se fermer aux revendications des Autochtones. Il y en a de fort légitimes. Mais si le point de départ de cette réflexion consiste à dire que la présence qu'on dit européenne, mais aujourd'hui, c'est après cinq siècles, j'ose croire qu'on appartient à ce continent aussi, si cette présence est illégitime ici, et fondamentalement, il doit avoir une forme d'expulsion symbolique pour dire qu'à jamais elle sera illégitime, eh ben là, il faut comprendre, c'est le fondement même de la définition de nos sociétés qui est remis en question. Et c'est un peu ça l'enjeu aujourd'hui. Quand on a décidé, par exemple, qu'on reconnaisse, par exemple, aux nations amérindiennes un rôle dans la construction du Canada, c'est-à-dire quand on décide de penser le Canada d'aujourd'hui, dire qu'il faut une place aux Amérindiens, très bien, ça va de soi. Quand on nous dit qu'il n'y a que les Premières Nations et que les peuples fondateurs, donc les Anglais, les Français, n'existent plus. Nous sommes tous des immigrants sauf les Premières Nations, ou les premiers peuples, comme on dit aujourd'hui. Alors c'est différent, ça. Ça consiste plus à s'ouvrir aux Autochtones. Ça consiste à nous expliquer que les peuples qui ont quand même fondé au sens d'un État, au sens d'une société moderne, au sens de, non pas seulement un territoire éternellement présent, mais à la manière de pays construit, tout ça, donc des fondateurs, et ça, il n'existe plus. Nous sommes tous des immigrants. Donc, l'enjeu, c'est la définition même de nos sociétés. Est-ce qu'on peut affirmer ça sans aujourd'hui subir les foudres idéologiques de minorités militantes très violentes symboliquement, qui travaillent à détruire les réputations? Et c'est ça un peu l'enjeu. Puis donc, quand l'inculture se conjugue au fanatisme dans un contexte d'intimidation globale, et que l'université, en plus, est une institution à produire un monde alternatif, hein, ces gens qui prétendent dénoncer les fake news fabriquent les leurs, eh bien, quand on est là-dedans, on a l'impression, j'y reviens toujours parce que pour moi, c'est fondamental, qu'on est dans un régime qui veut nous faire dire que 2 plus 2 égale 5.
Tout à fait. Écoute,
2 plus 2 égale 4, c'est la première des vérités, la première des libertés.
En terminant rapidement, il y a un nouveau livre de I.G. Oma Oluo. Alors, une militante antiraciste intersectionnelle. Alors, rien que te dire le titre du livre, ça s'intitule « Médiocre, l'héritage dangereux de l'homme blanc américain ». Faut le faire.
Je tiens à préciser que ce n'est pas du racisme, c'est même de l'antiracisme, car s'en prendre à l'homme blanc, le détester pour ce qu'il est, détruire sa blanchité, tuer le vieil homme blanc en lui, c'est de l'antiracisme, c'est pas du racisme. Mais si tu dis le contraire, c'est que t'es raciste, mon Richard.
Ah ouais, alors toi et moi, nous sommes médiocres, qu'on se le dise.
En plus, médiocres et racistes, on accumule, de ce point de vue, les tares, du point de vue du régime. Ça
ouais.
va bien.
Oui, oui, on va se promener avec un t-shirt en écrivant « Je suis un homme blanc hétérosexuel, kick my ass ». Merci beaucoup, Mathieu.
Heureux destin, bonne journée.